Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on débute avec les grands titres de l'actualité. Certaines frontières intérieures vont être réouvertes en Australie, notamment avec l'Australie occidentale. Le Queensland fait toujours le bras de fer, par contre, avec Sydney, le Greater Sydney. Les suites de l'enquête sur l'attaque terroriste à Nice, un deuxième homme a été interpellé. Et J-3 pour les élections américaines. Et tout d'abord, on commence ce journal avec le point sur le coronavirus en Australie. Le Victoria a enregistré un nouveau cas de Covid-19 dans ces dernières 24 heures avec aucun nouveau décès. La moyenne sur 14 jours de l'État est en baisse à 2,4, deux cas ayant une source inconnue. Cela survient donc après que, à Melbourne, le premier week-end de restrictions assouplies a débuté aujourd'hui. L'agent de sécurité en chef du Victoria, Brett Sutton, exhorte les gens à continuer à se conformer aux règles de sécurité contre le Covid et donc à rester prudents. De l'autre côté du pays, je vous le disais en titre, la frontière entre l'Australie occidentale et les autres États australiens sera remplacée par un, entre guillemets, arrangement frontalier. Une moyenne sur 14 jours de moins de 5 cas de transmission communautaire dans les États et les territoires sera nécessaire avant de passer au nouveau contrôle. C'est en tout cas ce que chaque juridiction respecte actuellement. Le Premier ministre de WA, Mark Gowen, a déclaré que les voyageurs de Tasmanie, d'Australie du Sud, du territoire du Nord, du Queensland et de l'ACT seront considérés comme à très faible risque, et seront autorisés à entrer dans le WA sans mise en quarantaine. Il dit qu'ils seront soumis à des contrôles, y compris un examen de santé, une vérification de la température à l'arrivée, ainsi que le fait de remplir une déclaration indiquant dans quels endroits ils se sont rendus au cours des 14 jours précédents en déclarant qu'ils n'ont pas de symptômes. On écoute le premier de l'Australie occidentale, Mark McGowan.
All travellers from states and territories that are deemed low risk will also be permitted to enter WA. However, they will also be required to take a COVID-19 test at the airport COVID clinic if deemed necessary by a health clinician, self-quarantine for 14 days in a suitable premise, and present for a COVID-19 test on day 11.
Voilà donc pour le WA. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a défendu sa décision de garder les frontières de l'État fermées aux habitants du Victoria et de Greater Sydney. Les résidents de Nouvelle-Galles du Sud, hors Greater Sydney, seront autorisés à entrer dans le Queensland pour n'importe quelle raison de leur choix à partir de mardi prochain. Mais l'administrateur en chef de la santé donc du Queensland, le docteur Janet Young, a recommandé que ce privilège ne soit pas étendu aux personnes dans les 32 zones de la région locale donc de Sydney en raison des épidémies et des cas mystérieux de Covid-19. Madame Palaszczuk dit qu'elle n'a aucune excuse et elle ne s'excusera pas d'avoir suivi les conseils du Dr Young.
They are in the best interests of the people of this state and I've had to stand strong on this issue over many, many months and many, many weeks when other people kept calling for the borders to be open. And if that had happened back in July, I still firmly believe the consequences for Queensland families would have been diabolical.
Voilà donc Anastasia Palaszczuk. Les bureaux de vote d'ailleurs sont ouverts pour les élections dans l'état du Queensland alors que les dirigeants du parti travailliste et du parti national libéral se concentrent sur les sièges marginaux dans une tentative de dernière minute pour recueillir des votes. Les deux partis proposent des visions distinctes pour l'avenir de l'état, les électeurs indécis étant appelés maintenant à maintenir le statu quo ou à soutenir une poussée pour le changement. Un électeur a déclaré à SBS News qu'elle ne prendra pas sa décision avant d'être dans l'isoloir. On l'écoute.
I'm quite excited actually because we kind of know exactly who's going to win and I don't know who's going to win this time. So Palaszczuk's done very well on the borders, but I do think that if you look back at the economy and it's quite interesting what Frecklington was saying. So I'm kind of like until I walk in there, I'm not quite sure who I'm going to vote for.
13h05. Un deuxième homme a été arrêté après l'attaque terroriste à Nice hier. Il a été placé en garde à vue hier soir. Je vous rappelle que cette attaque a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice. L'enquête avance et on connaît désormais l'identité des victimes. Sylvie Coffey.
Les victimes sont 3 paroissiens qui étaient venus prier dans cette église. Et l'on en sait un peu plus sur le mode opératoire du meurtrier. Le corps de la première victime, une sexuagénaire, a été retrouvé près de l'entrée principale. Elle présentait un égorgement très profond de l'ordre d'une décapitation, a rapporté le procureur de la République. L'assaillant aurait ensuite égorgé mortellement le sacristain de la basilique. Ce père de 2 filles était âgé de 55 ans. La troisième victime, une mère de famille brésilienne âgée de 44 ans, va arriver à s'échapper de l'église. Elle ira se réfugier dans un restaurant à proximité, mais elle succombera à ses blessures. L'assaillant a été interpellé moins de 10 minutes plus tard après avoir perpétré ses meurtres par la police municipale qui a ouvert le feu. L'auteur présumé des faits, un jeune Tunisien de 21 ans dont le pronostic vital est toujours engagé, serait arrivé en France il y a un mois après avoir débarqué sur l'île italienne de Lampedusa. C'est ce qu'a précisé Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste chargé de l'enquête.
Et c'était Sylvie Coffey pour RFI. En France toujours, le reconfinement a débuté cette semaine avec des restrictions moins draconiennes qu'en mars, mais confinement tout de même. Le but de cette mesure prise par le gouvernement est d'enrayer la propagation du virus et de désengorger les services hospitaliers. Une mesure pas toujours comprise dans le pays, comme dans ce petit village du centre de la France.
Coiffeur, restaurant.
Dans la file d'attente de la boulangerie du village de Chabris, ses habitants sont encore sous le choc des annonces.
Macron, il a pris une bonne décision. Par contre, la deuxième vague, là, les commerces vont fermer, la maison de la presse, les restaurants, les cafés. Ça va être compliqué, hein. Ça, l'économie, elle va se casser la gueule, hein. Même ici, hein, puis les chômeurs et tout, oh là là, la misère. Ça va être une catastrophe.
Et comme tout le monde, Eric va reprendre l'habitude des attestations de sortie.
Pour faire les courses, tout ça, papier. Ils disent un mois, mais à mon avis, ça va être plus.
Les coiffeurs du village commençaient juste à retrouver leur clientèle de début d'année. Alors un deuxième confinement.
Je suis déçue, parce que c'était une punition. Bah, comment on va faire? On va fermer. On n'a pas le choix, hein, ceci dit.
Le président de la communauté de communes, Philippe Jourdain, aurait aimé que les petits commerces, fondamentaux dans les villages, restent ouverts.
Le fleuriste local, l'électricien pour aller chercher un petit électroménager, eh bien ces gens-là vont devoir fermer et les grandes surfaces vont prendre de l'ampleur à nouveau. Et c'est là l'aberration pour nous. C'est dommage, quoi. C'est là que je dis, aujourd'hui, il faudrait prendre au cas par cas les choses.
Des interrogations, beaucoup d'incompréhension, mais les habitants respecteront les règles. Et heureusement, les balades dans la forêt d'à côté seront bien autorisées.
Voilà donc pour ce petit village dans le centre de la France. Une polémique par contre qui enfle autour de ce nouveau confinement, les librairies fermées par les autorités, alors que les grands magasins, elles, ont le droit de rester ouvertes. Eh bien la Fnac et les autres grandes surfaces ont décidé de fermer leurs rayons livres en solidarité avec les petits commerces. Reportage de Carmel Lonsman.
Contrairement au printemps dernier, la Fnac et Darty restent ouverts durant ce deuxième confinement, mais sans la culture. Les quelques 300 magasins Fnac et 500 Darty, considérés comme commerce essentiel, ne souhaitent pas se mettre en concurrence déloyale avec les librairies. Une décision qui a du poids venant du premier libraire de France qui est la Fnac. Dès ce samedi matin, l'ensemble des rayons culture du groupe sera donc fermé pour les 15 prochains jours en attente de nouvelles annonces du gouvernement français. Pas question cependant de fermer tout, car la période des fêtes qui débute constitue l'essentiel des ventes et du résultat de l'enseigne multispécialiste. Des appels à rouvrir les librairies viennent également des rangs politiques, de l'ancien président français François Hollande, de la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore de l'ex-ministre de la Culture Jack Lang. Ils estiment l'accès à la culture comme essentiel, tandis que le critique littéraire François Bunel a créé une pétition en ligne pour rappeler qu'avec la fermeture des librairies, le pays se priverait, je cite, de son meilleur bataillon pour affronter l'obscurantisme.
Et c'était Carmel Lonsman pour RFI. La Belgique a également imposé un nouveau confinement partiel dans le but de freiner la propagation du Covid-19. Le gouvernement belge restreint les voyages et les achats, tandis que les contacts avec la famille seront également réduits à un minimum absolu en dehors du cluster le plus proche, et ce pendant les 6 prochaines semaines. Le travail à distance sera également obligatoire quand il est possible. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a déclaré que les restrictions sont essentielles pour minimiser l'impact du coronavirus.
Ceci sont les mesures.
These are the measures of the last chance. They're the necessary measures to make the figures decrease. It's now in our hands. It's in your hands. These really are the last chance measures, and it's up to all of us to make sure that they produce a result.
Veillez que ces mesures aient un effet.
13h10, on vote demain en Côte d'Ivoire et la campagne s'est déroulée dans un climat tendu, ce qui fait redouter des violences lors du scrutin. Les explications d'Alexandra Branjon.
Près de 150 incidents jugés critiques ont éclaté ces dernières semaines, selon l'organisation de la société civile Indigo. Des manifestations violentes, des heurts, des affrontements. L'atmosphère est délétère, déplore le coordinateur d'Indigo, Ansen Kanga.
Entre ceux qui n'y croient pas et ceux qui y croient, c'est clair que l'atmosphère est délétère. Et les incidents de ces derniers jours, notamment dans les localités comme Bonoir, au Bongwanou ou encore Dabou, montrent bien que le climat n'est pas apaisé.
Plusieurs initiatives ont été lancées à travers le pays pour privilégier le dialogue, explique Paul-Emmanuel Bakayoko du NDI, le National Democratic Institute.
Les partis politiques au niveau local qui appartiennent à la communauté aspirent à se parler, aspirent à échanger, mais la difficulté c'est que ces communautés-là sont sujets à des mots d'ordre qui viennent du niveau national. Donc quand on arrive à les mettre ensemble déjà, ils comprennent tout de suite la nécessité de ce dialogue et ça a pu réduire les niveaux de violence dans certaines localités.
Plusieurs succès ont d'ailleurs été enregistrés, souligne-t-il, Wangolo, Sakassou, où des heurts ont pu être évités grâce à des rencontres entre leaders locaux.
Et c'était Alexandra Branjon pour RFI. Avant de passer aux élections américaines, un détour par la Turquie. Un puissant séisme de 6,7 sur l'échelle de Richter a fait au moins 15 morts et des centaines de blessés en Turquie et en Grèce. Et en Turquie, c'est dans la région d'Izmir, troisième plus grande ville du pays. Anandlore.
C'est une secousse particulièrement violente, comme l'ouest de la Turquie n'en avait pas ressenti depuis des décennies, qui a fait trembler pendant 15 secondes la province d'Izmir à 14h51 heure locale. Les images de bâtiments de plusieurs étages effondrés ou en train de s'effondrer, de nuages de poussière s'élevant dans le ciel et d'habitants paniqués se précipitant dans les rues sont très vite apparues sur les écrans de télévision et les réseaux sociaux. Les régions de Bornova et de Bayraklı sont les plus touchées. Selon le maire d'Izmir, une vingtaine d'immeubles se seraient effondrés dans la province. La télévision turque a montré des images de blessés sortant des décombres et d'habitants leur venant en aide, en attendant l'arrivée des secours qui ont parfois été retardés par les énormes embouteillages qui ont suivi la secousse. Les secours se poursuivent sous la menace des répliques nombreuses qui ont atteint jusqu'à 4,8 de magnitude. Les autorités appellent les habitants de ces régions à ne surtout pas retourner chez eux. Le séisme a aussi provoqué de très grosses vagues en bord de mer qui ont entraîné des inondations dans les rues de Seferihisar. L'épicentre a été localisé à 17 km au large de ce district qui s'étire sur la côte égéenne.
Voilà donc pour la Turquie, plus que trois jours avant le Election Day aux États-Unis. Et c'est les derniers jours de campagne et les candidats sillonnent les États. Trois meetings par jour pour les deux candidats. Le coronavirus s'invite plus que jamais dans la campagne alors que les États-Unis viennent de passer la barre des 9 millions de cas. Anne Corpet.
Un record a été battu ce jeudi avec plus de 91 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations est en hausse et on a repassé la barre des 1000 décès par jour pour la troisième fois depuis le début du mois d'octobre. La pandémie flambe dans 47 États et notamment dans les États clés indispensables à la victoire. Cela n'empêche pas Donald Trump de continuer à organiser de vastes rassemblements populaires sans précaution particulière. Le président américain affirme contre toute évidence que l'issue de la crise est proche, il peste contre les médias qui continuent d'évoquer les risques posés par le coronavirus. À l'inverse, Joe Biden privilégie une approche très prudente, cible ses attaques sur la gestion de la pandémie par son rival et prévient que l'hiver sera difficile. Il est soutenu par les experts qui appellent à des mesures plus strictes. Ce vendredi, la revue médicale de référence The Lancet a vigoureusement dénoncé la gestion désastreuse de la crise du Covid-19 par l'administration de Donald Trump.
Et c'était Anne Corpet pour RFI. Allez, coup d'œil météo pour conclure ce journal. Aujourd'hui, à Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 18. Hobart, 19. Canberra, 15. Sydney, 26. Brisbane, 31. Cairns, 34. Et Darwin, du soleil, est 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, pour ce 31 octobre. Certaines frontières intérieures vont réouvrir en Australie, notamment avec l'Australie occidentale. Le Queensland, par contre, fait toujours le bras de fer avec le Greater Sydney. À la suite de l'enquête sur l'attaque terroriste à Nice, un deuxième homme a été interpellé. Et on vient de l'entendre, J-3 pour les élections américaines.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.